Salut les copains!
Bienvenue dans l'émission hebdomadaire de Brut. Mais Brut, c'est quoi? C'est une association étudiante de l'UTC qui propose différents formats médiatiques, rien que pour toi, pour t'informer et te divertir. Tu peux nous rejoindre sur Facebook ou Instagram en cherchant notre nom, Brut UTC tout simplement, et tu auras le plaisir de découvrir les expériences Erasmus du TC1, mais aussi d'entendre des diplômés, d'anciens diplômés de l'UTC, parler de leur virage de formation vers des métiers comme maître chocolatier ou tatoueuse. Oui, ça fait rêver. Et oui, je sais que tu as déjà envie d'aller voir ces vidéos, mais reste avec nous pour l'instant. On va discuter aujourd'hui à la radio d'un combat dont le nom fait frémir certains, certaines. C'est quoi être féministe aujourd'hui en 2021 ? Violette et moi, Jade, on a le plaisir d'accueillir Cécile Quérault et Chiara Perrier pour cette discussion. Salut les filles.
Bonjour.
Comment ça
Salut.
Va ?
Ça va.
Ça va bien ?
Ça va très bien.
Bah merci de venir nous apporter vos connaissances, votre angle de vue sur ce sujet assez vaste. Pour lancer la conversation, Cécile et sa belle éloquence vont nous donner un petit regard sur l'histoire du féminisme. Je te laisse parler.
Bon, éloquence, je ne sais pas, mais en tout cas, si on devait définir la pensée féministe, on pourrait dire que c'est un ensemble d'idées, d'idéologies qui visent à promouvoir les droits des femmes et des minorités de genre dans la société, partout où les inégalités sont fondées sur le genre. C'est un mouvement qui n'est pas uniforme, mais qui se veut fondamentalement pour l'égalité entre les genres, qu'il s'agisse d'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique. Autant dire que les champs à couvrir sont extrêmement nombreux dans une société, surtout occidentale ici, qui repose historiquement et culturellement sur une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes. Donc c'est une société qu'on pourrait appeler patriarcale et dont l'organisation est de plus en plus contestée. Donc on parlera de féminisme au pluriel, puisque comme souligné plus tôt, c'est un mouvement qui est plutôt polymorphe, qui va du féminisme radical à l'écoféminisme, au féminisme intersectionnel, queer et j'en passe. Et donc on doit au féminisme l'un des combats les plus fulgurants et des victoires extrêmement importantes pour l'égalité, puisqu'en moins de 2 siècles, c'est le quotidien de milliards de femmes qui s'en est vu impacté. Donc dans le monde occidental, l'histoire des principales mobilisations féministes peut être retracée pour des raisons pratiques en termes de vagues. On parlera de vagues féministes, et on en dénombre généralement 4. Donc la première, elle correspond à la lutte pour les droits politiques, donc en particulier le droit de vote, entre la moitié du XVIIIe siècle et 1950. Donc c'est principalement symbolisé par les suffragettes. La deuxième vague féministe, elle se déroule entre les années 60 et 70 et elle correspond plutôt au mouvement de la lutte pour les droits reproductifs, la liberté sexuelle, donc en somme la liberté à disposer de son corps, notamment avec l'avortement et la contraception. C'est à ce moment-là qu'il est réclamé une égalité de fait et pas seulement de droit. Et ensuite, on a la troisième vague, donc entre les années 80 et 2000, qui se construit autour de la notion d'intersectionnalité, notamment avec les penseuses afroféministes, qui conçoit le sujet politique, et donc le féminisme, comme le croisement de différentes oppressions, que ce soit liées au genre, à la race, à la classe, à l'orientation sexuelle, etc. Et enfin, la quatrième vague, c'est celle qui est supposée être la nôtre, donc cette nouvelle vague féministe qui émerge d'Amérique latine dans les années 2010, mais qui est d'ampleur internationale, et qui renoue donc avec les luttes du travail, sans oublier la pluralité des dominations politiques. Donc ce serait une forme de synthèse des deux vagues précédentes qui réclament la justice, notamment vis-à-vis des violences sexistes et sexuelles dans toutes les sphères.
Ok, ouais. Chouette, merci de donner un cadre à cette émission. Je pense que la première question qui me vient à l'esprit, là, c'est comment vous avez commencé à vous dire féministe? Parce qu'en vrai, être féministe, on l'est depuis qu'on est toute petite, je pense. Est-ce que vous avez un moment charnier ?
Ouais, pour ma part, enfin ce que je pourrais dire, je pense j'ai été sensibilisée à ce genre de questions à travers plutôt, enfin j'ai pas entendu parler de féminisme en tant que tel. Enfin c'est pas à ce moment-là que j'ai commencé à mettre un pied dedans, mais c'est plus à travers mon expérience personnelle, enfin mes expériences de vie et bah concrètement des violences sexistes et sexuelles que j'ai pu vivre. Et du coup, bah, tout le cheminement dans lequel ça m'a emmené émotionnellement et tout, bah, c'est un peu ça qui m'a ouvert la voie vers des questions, enfin, en gros, sur bah, les comportements que je pouvais avoir, comment je pouvais me sentir parce que j'étais une femme et comment je vivais ma sexualité beaucoup. Parce que du coup, bah, quand on vit des violences sexistes et sexuelles, forcément, ça nous impacte. au niveau intime et ça crée beaucoup de remous quoi dans ce qu'on pense, qu'on ressent. Et du coup, je pense que la porte d'entrée, c'était vraiment là. Et après, moi, le féminisme en tant que tel, en tant que mouvement qui se revendique avec un nom, avec... voilà, j'ai découvert ça à travers une web-série qui s'appelle Clit Révolution, qui est ouf, faite par deux femmes exceptionnelles. Et du coup, qui ont fait tout un tas d'épisodes sur plein de thématiques différentes. Donc le premier est sur le clitoris. Et puis, il y en a plein d'autres sur plein de thématiques qu'on pourra certainement aborder par la suite. Et voilà, c'est vraiment c'est vraiment elles qui m'ont un peu initiée au fait de donner un nom, quoi, de donner le nom de féminisme, mais voilà.
Et de base, c'était dans un moment où tu cherchais une place, en fait, et à comprendre où t'instaurer dans cette société, quoi.
Ouais, un petit peu, ouais, carrément.
Alors tu dis qu'à l'époque... Tu te basais seulement sur ton expérience personnelle et que tu t'étais pas renseignée et qu'à ce moment-là, tu te considérais pas comme féministe. Donc, est-ce qu'il faut forcément se renseigner pour pouvoir se revendiquer féministe ?
Non, je pense pas. Enfin, je pense pas, mais pour le coup, je pense que j'étais un peu... Enfin, je m'éveillais au féminisme sans en avoir conscience et je pense qu'on n'a pas besoin forcément de poser le mot ou de se revendiquer féministe pour l'être, en fait. Au final. Mais c'est sûr que quand on n'a pas connaissance du mouvement, après, moi j'étais jeune et tout, je me rendais pas compte. Et aussi c'était un truc qui me faisait peur, vachement, le terme de féminisme, beaucoup au début. Et même en arrivant à l'UTC encore, je me rappelle, c'était des petits débats que j'avais avec mes potes un peu plus éduqués sur le sujet.
Alors pourquoi ça te faisait peur ? Est-ce que t'avais peur d'être catégorisée comme féministe ? C'est ça qui te faisait peur ?
Ouais, ça me faisait peur parce que c'est... ouais, j'avais peur, enfin... J'avais pas peur d'être féministe parce que pour moi, je l'étais pas. Mais j'avais plus peur du féminisme en tant que tel parce que c'est quelque chose qu'on dépeint de manière très... c'est moins le cas aujourd'hui, mais ça l'est toujours beaucoup.
Ouais, un peu diabolisé.
Hyper diabolisé dans les médias mainstream.
Ouais. Justement, est-ce que cette connotation négative, elle donne un peu moins de valeur à tout le mouvement ? Est-ce que vous sentez cette pression quand vous dites délibérément être féministe ?
Je pense que comme le disait Chiara, je pense qu'on est... À partir du moment où on cherche plus ou moins consciemment l'égalité, on se demande pourquoi moi j'ai pas accès à ça, pourquoi je subis ça en raison de mon genre, etc. À partir du moment où on se pose ces questions ou qu'on veut l'égalité tout simplement, je pense qu'on est déjà dans une démarche qui peut être catégorisée de féministe sans mettre le mot dessus, parce que à partir du moment où on met le mot dessus, on a l'impression que ça va avec beaucoup d'injonctions, beaucoup de débats, d'une diabolisation assez générale du terme.
Parce que tu le dis aussi, tu l'as décrit très bien dans ta petite présentation, le mouvement féministe, ça a l'air d'être quelque chose de très large, qui couvre beaucoup de domaines finalement. Donc est-ce que de simplement être conscient des inégalités et de vouloir lutter contre le sexisme, est-ce que ça suffit au féminisme ou est-ce que le féminisme c'est quelque chose de plus global ?
Vas-y.
Je pense que ça suffit. Et après, je dirais qu'il y a autant presque de féminisme que de femmes et que chacun vit son féminisme à sa manière.
Voilà. Ça, c'est hyper important de le dire, je trouve.
Ouais. Parce que comme dans les années 80, on instaure le concept d'intersectionnalité, c'est que la plupart des individus ne sont pas catégorisés que par leur genre. Par exemple, on peut se dire, il y a beaucoup de militantes lesbiennes qui ont milité dans le féminisme et qui étaient à l'intersection de plusieurs discriminations liées à leur genre et aussi à leur orientation sexuelle, etc. Donc je pense que c'est un peu... c'est très large, comme tu dis, et chaque personne le vit un peu différemment.
Et pour répondre, moi, mon avis sur ta question, Violette, du coup, est-ce que ça suffit pour être féministe ? La formulation, elle me marque un petit peu parce que... En fait, moi, ma manière de percevoir, et je crois qu'on est un peu raccord sur ça, Cécile, de percevoir le féminisme, c'est du coup pas comme une école qui aurait des injonctions, en fait. Genre pas comme une école avec des dictats et des conditions pour pouvoir en faire partie ou non. C'est plus juste un terme qu'on pose pour qualifier au final a posteriori des démarches qui peuvent se revendiquer féministes ou non. Enfin, typiquement, moi, quand je me suis rendu compte que certains trucs que j'avais vécu, en fait, c'était des trucs, c'était des agressions, c'était des trucs illégaux, que des gens m'avaient fait des trucs qu'ils n'avaient pas le droit de faire au final. Bah, déjà, tout ça, enfin, je mettais un pied dedans, et alors que c'était un moment où je ressentais pas du tout le besoin, et au contraire, de m'associer à quelque chose de féministe. Mais en fait, c'est un mot, donc comme tous les mots, c'est des étiquettes qui nomment des choses et du coup qui sont après support à bah, la stigmatisation. Et voilà, du coup, ça permet des fois de... Enfin, je trouve, moi, que le féminisme, il est traité dans les médias mainstream, en tout cas vraiment comme presque une caste ou une sorte de catégorie de personnes, comme si y avait une école et avec des diplômes à la fin, ou là, si t'es folle et que t'es super casse-burne, bah du coup, c'est bon. Genre...
Ouais, c'est ça le risque. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une définition. Mais est-ce que, du coup, en parlant d'égalitarisme, de juste vouloir l'égalité, est-ce qu'on ne se restreint pas un peu? Est-ce qu'on ne parle pas plutôt de liberté plutôt que d'égalité, qui devrait être un socle commun à tout combat, en fait. L'égalité, c'est la base. Et ensuite, pour les femmes et le féminisme, est-ce qu'on ne parle pas de liberté comme principe clé?
Je dirais que de parler de liberté en général, ce serait un peu invisibiliser les problématiques que peuvent vivre certaines femmes, que peuvent vivre toutes les femmes et les minorités de genre en général. Mais... À dire, par exemple, on est pour la liberté, etc., on ne s'intéresse pas forcément aux intrications et aux mécanismes qui font les inégalités et les dominations. Et qu'à utiliser des mots trop universels, on invisibilise des problématiques qui sont spécifiques à la situation.
Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que je trouve aussi important de garder le terme de féminisme et pas égalitarisme.
Et c'est ça, parce qu'au final, je crois que l'idée que je viens d'avoir, elle est en train de m'échapper, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que ça invisibilise, en fait. Et surtout, ce qui est intéressant dans le féminisme, c'est que le mot féminisme, il dérange. Et c'est hyper intéressant, en fait. C'est un peu le point clé aussi du féminisme, c'est que rien que le mot, en tant que tel, il dérange, alors que l'égalité ou vouloir la liberté, bah, c'est hyper sexy comme idée, genre, c'est trop cool, tout le monde est d'accord, ça fait consensus. Et en fait, quand on regarde, quand on observe du point de vue des sciences sociales, bah, le fait que le féminisme pose problème, c'est une clé de compréhension, quoi.
C'est révélateur aussi. À partir du moment où quelque chose dérange, c'est qu'il y a quelque chose qui est en place et qui se sent attaqué dans ses droits ou dans ses libertés, j'en sais rien. Mais le féminisme, ça n'enlève pas de liberté à certains pour en donner aux autres. C'est pas ça le but, et on n'est pas en train de dire oui, les femmes doivent dominer le monde.
Au contraire. Non, mais dans la terminologie même, on met le doigt sur justement le manque d'égalité pour les femmes, cis et trans, bien sûr.
Ouais. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est la même chose pour toutes les formes de lutte sociale. Les luttes sociales, souvent, la plupart du temps, ont des raisons très fondées d'exister lorsqu'elles dérangent, justement. C'est ce que tu disais, c'est justement parce que ça dérange que ça a une raison d'être. Parce que si ça dérange personne que tel ou tel mouvement existe, c'est qu'il n'y a pas de vrai problème de fond, finalement.
Et justement, ouais, ce qui est normal ne dérange pas. Si ça dérange, c'est qu'on considère que c'est pas normal, mais ça devrait l'être. Donc, le jour où justement ça ne dérangera plus, là, on saura que voilà, l'égalité, c'est normal. Voilà, ça veut dire que pour l'instant, la société considère que ça ne l'est pas.
Est-ce que vous estimez que c'est un combat qui est ouvert à tous?
Oui.
Oui.
Même aux hommes? C'est la question, je pense, qui se pose pas mal.
Ouais, vas-y.
Il y a plusieurs approches par rapport à ça. Moi, vraiment, ça me dérange pas trop tant que tout le monde y met du sien. En fait, tant qu'on va vers quelque chose qui est mieux, c'est pas grave. Après, moi, j'aurais tendance à dire que peut-être que les hommes sont plutôt des alliés féministes que des féministes en tant que tels, parce qu'ils sont pas concernés directement. Enfin, si, ils sont concernés directement, mais ils ne vivent pas forcément au quotidien ce que peuvent vivre les personnes qui portent ces luttes, qui militent ou pas, d'ailleurs.
Ils sont pas acteurs principaux du combat. Alliés, c'est
un combat. Mais donc c'est un combat, parce que les hommes, tout comme les femmes, pourraient être conscients des inégalités, et rien que ça, serait être féministe, comme ne pas être raciste ou être pro-égalité. Mais...
Moi, je pense que c'est une lutte ouverte à tous. Pour autant, la réserve que j'aimais, c'est, et moi, ce qui peut me déranger dans les médias aujourd'hui, c'est quand des hommes s'approprient la question féministe, en fait. Et quand des hommes vont interpeller, par exemple, les féministes pour dire « on n'est pas tous comme ça, not all men et tout », ça pose vraiment problème. Quand il y a une instrumentalisation, une appropriation à des fins de communication, de pouvoir, parfois politique, ça, c'est un problème à partir du moment où il y a une instrumentalisation, je trouve. Il y a pas de... En fait, les hommes ne doivent pas se réapproprier à la question féministe et l'instrumentaliser. Après, bien sûr que les hommes et les humains en général, tous les humains, doivent se poser les questions, en fait, et doivent bien sûr mener des réflexions liées au féminisme. Après, oui, les porteuses du mouvement féministe, c'est bien sûr les femmes, mais je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de catégorie à faire sur est-ce qu'on a des ennemis, est-ce qu'on a des... Et voilà, comme tu disais, Violette, déjà, faire l'effort, qui qu'on soit, faire l'effort de comprendre, essayer de faire l'effort de s'informer, etc., c'est déjà un pas. Et moi, ce qui peut me déranger aussi, parfois, c'est... Enfin, à la fois, je considère que c'est pas tellement le combat des hommes, à la fois, quand moi, mes potes mecs me disent « ouais, ça me concerne pas », enfin, quand on va parler de violence sexiste ou sexuelle, et qu'ils me disent que ça les concerne pas, par exemple, ça m'énerve, parce qu'au final, ça participe beaucoup à l'invisibilisation du problème. Et des fois, c'est même eux qui se rendent pas compte. Eux ont des comportements problématiques sans s'en rendre compte. Et du coup, ce qui m'énerve un peu, c'est cette posture aussi un peu infantilisante qu'on retrouve souvent dans les rapports un peu hommes-femmes. Du coup, les garçons attendent qu'on leur dise quoi faire pour être des bons féministes parce que du coup, c'est un truc sensible, machin. Alors qu'en fait, il y a pas trop de ça. Nous, on n'a pas envie de porter le poids de notre féminisme, plus de comment expliquer aux mecs comment être féministe. Du coup, c'est pas...
Surtout que, il y en a beaucoup, en tout cas dans notre entourage, qui viennent poser des questions, par exemple, dire « vas-y, explique-moi » et tout, explique-moi, mais en fait, moi, j'ai fait mes recherches toute seule, tu peux aller les faire tout seul aussi. Et c'est vrai que parfois, ça peut être un peu fatigant de devoir... de devoir expliquer tout à chaque fois à tout le monde, etc. Mais c'est vrai qu'il y a... si on est dans une posture bienveillante d'écoute, surtout des personnes concernées, moi, je vais pas aller m'exprimer sur des sujets que je connais pas. Je suis blanche, je subis pas le racisme, je vais pas aller m'exprimer sur ces questions-là. Je vais écouter les personnes concernées. C'est surtout ça la posture, je pense, qui devrait être adoptée par les hommes.
C'est là que je voudrais avoir votre réaction par rapport à la formulation de Violette, qui était de dire est-ce que juste prendre conscience, c'est pas déjà être féministe? Mais en soi, je pense, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, on a besoin des actions qu'il y a derrière, on a besoin d'avoir plus qu'une prise de conscience, de parler autour du sujet pour justement libérer l'ouverture d'esprit de d'autres personnes, d'aller provoquer la curiosité des uns et des autres qui vont après venir vous poser des questions. Alors, c'est peut-être pas la meilleure manière. On parlera peut-être en fin de podcast de recommandations que vous pouvez avoir sur des comptes Instagram, des chaînes YouTube, des endroits où se renseigner, c'est important. Mais oui, pourquoi parler autant? Pourquoi s'ouvrir et ouvrir le débat? À quel point c'est important?
Pour moi, ouvrir le débat, c'est hyper important parce que, quelque part, même si, du coup, le combat féminisme en tant que tel, il n'a pas à être mené et guidé par des hommes, ça les concerne complètement aussi. Et ça, parce que ça concerne les questions de genre et de rapport au genre et de libération par rapport au dictat de genre, de manière générale, dont ils sont, que la société patriarcale inflige à la fois aux hommes et aux femmes. Après, nous, le propos du féminisme, c'est les oppressions et du coup, faites aux femmes. Donc, on n'est pas là pour, s'identifier et prendre la parole des hommes sur ces questions-là, sur les dictats de genre liés à la virilité, etc. Mais on voit bien que c'est des questions qui s'entrecoupent, qui s'entremêlent et c'est un peu en vase communicant. Du coup, je pense que le féminisme, ça peut aussi être pour plein d'hommes une porte d'entrée à se libérer de ce genre d'injonction et juste dans l'idée de se dire ok, je prends conscience de moi, de ce que de juste se politiser, en fait.
Mais oui, parce qu'en fait, finalement, ça les concerne bien plus qu'on pourrait le croire. Si on parle, nous, en tant que femmes, d'être tout le temps oppressées, ça fait d'eux, quelque part, les oppresseurs. Mmh. Et dans cette mesure, ils ont besoin de se libérer de ces injonctions aussi, comme tu dis.
Tout à fait.
Et après, ouvrir le débat, ça permet aussi... comment dire, c'est une prise de conscience collective qui est nécessaire. Et en plus, je pense que de parler même entre nous, entre femmes, cis, trans, non binaires, etc., c'est important parce que on met en commun un vécu, une expérience historique et personnelle qui permet de se reconnaître et d'identifier aussi ce à quoi on est confronté tous les jours. Et c'est à partir de là où, voilà, parce que j'ai communiqué, j'ai entendu quelque chose, j'ai discuté avec des personnes de mon entourage de certains sujets, je vais identifier, par exemple, je sais pas, un propos sexiste dans une conversation un jour, je vais pouvoir m'y interposer si j'en ai l'énergie. Et me dire, bah, ça, c'est pas normal, et c'est pas normal que cette personne subisse ça, ou c'est pas normal que moi je subisse ça, etc. Donc c'est tant quotidien que hautement politique, et voilà, le débat, il devrait être large et ouvert.
Parce que parfois, on se rend pas compte, en fait, tout simplement, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous dit, déconstruis-toi, réfléchis sur le sujet. Est-ce que vous avez des exemples, là, d'injonctions sociales qui nous pèsent encore aujourd'hui le patriarcat, juste dans la langue française, enfin, y a plein de sujets, je pense, on peut rentrer peut-être un peu plus en détail si vous avez des choses intéressantes à dire.
Il y en a beaucoup, hein.
Ouais, ouais, ouais. Il y en a énormément. Je pense que c'est un sujet intéressant.
Ouais. Je pense que, linguistiquement parlant, par exemple, si on commence là-dessus, au XVIIIe siècle, on a décidé que le genre masculin était plus noble, donc on a créer cette règle, voilà, ça fait pas si longtemps que ça.
Mais voilà, c'est important de dire ça. C'était de base dans le latin. Non, on ne disait pas les femmes, les femmes et un homme sont beaux. On disait le dernier, c'était le terme qui collait au verbe, s'accordait. Donc un homme et les femmes sont belles.
Voilà, mais ça a changé. C'est des règles qui sont même relativement récentes et qui sont questionnées, etc. On parle. Ben voilà, quelque chose à mettre en place qui n'est pas si compliqué, c'est l'écriture inclusive. Oui. Parce que, bon, voilà, si on doit en parler, c'est vraiment pas très compliqué à mettre en place.
Est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est l'écriture inclusive?
Ouais. L'écriture inclusive, c'est de ne pas partir du principe qu'il faut masculiniser tous les termes, que le masculin l'emporte sur le féminin, que s'il y a 1000 femmes dans une pièce et un homme, on va dire tous et pas toutes, ou des choses comme ça. Donc l'écriture inclusive, ça permet d'inclure les deux genres. Donc par exemple, un adjectif qui finira par « et », on mettra « et.e ». Comme ça, tout le monde est concerné.
Et typiquement, tu vois, ça, je pense que c'est un sujet sur lequel les personnes non sensibilisées vont dire « non mais là, c'est bon, vous cherchez, vous forcez, ça va, on a pris l'habitude de parler comme ça, c'est pas sexiste de s'exprimer de cette manière ». Mais quand on est enfant et quand on entend le masculin, ça l'emporte sur le féminin, je veux dire, ça a des impacts quelque part.
Bah oui, c'est clair, enfin, tu l'expliquais tout à l'heure, enfin, t'évoquais du coup le terme de déconstruction, et en fait c'est vraiment ça, enfin, c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire percevoir des choses comme... Enfin, nous on a une société avec ses codes établis, etc., en fonction de tout un tas de trucs, et du coup on considère plein de choses comme pas questionnables, enfin, c'est des choses qu'on nous dit comme ça, des codes, et qu'on va pas questionner, et qu'on va un peu considérer comme naturel ou voilà, allant de soi. Et typiquement, l'écriture, ça en fait partie. Enfin, on a toujours fait comme ça. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce débat qui n'a pas lieu d'être, quoi. Alors qu'au final, enfin, quand on creuse un petit peu, et c'est ça le travail de déconstruction, en fait, se déconstruire, c'est juste se poser des questions sur ce qu'on ne questionne pas. Et du coup, voilà, c'est se poser la question, bah, du coup, pourquoi, en fait, pourquoi, quand j'étais en CP et qu'on m'apprenait à écrire, on m'a dit, bah, le masculin l'emporte sur le féminin. C'est hyper grave comme phrase, déjà, moi, ça me choque. Mais, enfin, parce que, voilà, sorti de son contexte, mais aussi juste dans ce contexte-là, rien que dire cette phrase à, je sais pas, des milliers de classes, enfin, voilà.
Mais du coup... C'est quelque chose qui forge, et puis qui porte un socle, et puis quel message ça renvoie aux petites filles. Parce qu'après, c'est... Enfin, du coup, on disait que c'était peut-être un champ... un champ à explorer, l'écriture, la langue, etc. Mais il y en a plein d'autres. Il y a des choses qu'on trouve normales et qu'on... Les blagues sur les femmes qui sont assez faciles, etc., qui sont infantilisantes, hypersexualisées, etc., si on les retourne envers un homme, par exemple, bah ça, on va tiquer, alors que c'est normal de le faire pour les femmes. Et je dis pas qu'il faut le faire. Il faut pas les retourner contre les hommes, il faut arrêter juste de le faire. Le but, c'est pas d'inverser la vapeur, mais c'est d'arriver à quelque chose qui soit plus tolérable.
Il faut réussir à voir que dans le langage, il se passe des choses. Quand on n'est pas autorisé à dire maîtresse de conférence, je crois que ça se dit pas, on dit maître de conférence pour une femme, alors que quelqu'un qui va donner des cours à des enfants, bah oui, ce sera une maîtresse. Enfin, c'est des choses qui viennent de quelque part, qui viennent d'une période de la société où on était obligé de... les femmes ne pouvaient pas atteindre à des statuts haut placés.
Mais ouais, la question du langage, elle est hyper significative. Hein. C'est un peu un pléonasme de dire ça, parce que la langue, c'est un signe, quoi. C'est un signe posé sur quelque chose. Mais du coup, complètement, parce qu'au final, notre société pense dans le langage. Et du coup, on ne pense pas en dehors des mots qu'on a pour décrire le réel. Du coup, c'est pour ça que c'est aussi... Enfin, que ça cristallise autant, en fait, et que c'est autant un laboratoire, en fait, et... Enfin, comment dire, quelque chose qui permet d'un peu de décrypter, comme si on regardait à la loupe les mécanismes sexistes, quoi. Et les linguistes sur ce genre de questions, et du coup, toute la question de l'écriture inclusive, c'est super intéressant, en fait, de se rendre compte que tout le monde... Enfin, c'est pas remis en cause, et il y a beaucoup de réfractions. Enfin, les gens vont partir du principe, en général, que... Ah, mais c'est chiant, on a toujours écrit comme ça, on n'est pas sexiste pour autant. Alors qu'en fait, si, parce qu'on écrit comme ça, on est sexiste. Enfin, c'est plutôt dans ce sens-là, en fait, que...
Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, pardon. La question que je me pose maintenant, c'est... Ça, c'est très propre au français, finalement, parce que c'est en français qu'on va genrer tous les mots, etc. C'est pas le cas de l'anglais, par exemple. Pourtant, il me semble pas que la société anglo-saxonne soit moins inégalitaire que la société française. Alors, qu'en dites-vous ?
Je pense qu'il y a beaucoup de particularités françaises, on va dire, quand on parle de sexisme en général, de misogynie, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont à la française et qui sont pas forcément plus acceptables parce que c'est français. Mais oui, c'est sûr que linguistiquement, il y a des particularités françaises qui sont sexistes. Mais il y a aussi la drague à la française... qui veut souvent dire harcèlement, mais voilà, il y a c'est pas moins sexiste, les autres pays sont pas moins sexistes que la France, mais après il faut aussi faire avec ce qu'on a sur les particularités territoriales, etc. Enfin, je veux dire, moi je vais pas forcément aller me bouger pour que ça change en Angleterre, par exemple, parce que j'ai pas trop accès, voilà, mais ici je peux. Donc, du coup, on compose avec les particularités de là où on vit aussi.
Alors, ouais, tu veux ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais dire, typiquement, moi, j'ai pas de réponse à ta question du tout, du coup, enfin, à ta question initiale, Violette, parce que du coup, je parle un peu l'anglais, mais je raisonne en français, et aussi j'ai pas le vécu de quelqu'un qui a grandi du coup dans un autre pays. Du coup, je saurais pas dire comment ça se passe là-bas, et enfin, en fait, je saurais pas aborder et comprendre ces questions parce que du coup je suis pas ces personnes-là, mais c'est une question intéressante, enfin, que je pense que la linguistique étudie, enfin, comment est-ce que ça se transpose, comment est-ce que ça se passe du coup dans d'autres pays où c'est moins genré, est-ce que c'est des pays moins sexistes? Bien sûr que c'est... Et il y a évidemment du sexisme, quand même. Ça, c'est une question à laquelle on peut répondre déjà, je pense. Mais du coup, dans quoi est-ce que ça s'instruit? Est-ce que c'est des formulations? Donc, quels sont les témoins visibles de ça dans la langue, en tout cas? Et c'est sûr qu'il y en a, même si c'est pas du coup aussi spécifique à la... Enfin, et aussi marqué qu'en France, quoi. Aussi obvious.
En espagnol, ils ont... Donc, le féminin est marqué par un A et le masculin par un O. Et ils ont trouvé un moyen qui est très bien et qui, à l'oral, marche très très bien, c'est de le remplacer par un E ou un X. Et donc ça marche super bien. Et du coup, on voit que on peut tous et toutes faire un, faire un effort là-dessus, c'est pas insurmontable.
Mais alors, il y a du sexisme dans toutes les cultures, même s'il exprimait différemment dans le langage, par exemple. Mmh. Mais il est quand même présent partout. Alors, comment ça se fait ? Est-ce que il y a des raisons naturelles à la base à cette inégalité ? Et est-ce qu'on peut dire que le féminisme n'avait peut-être pas lieu d'être il y a des centaines d'années de ça, quand les priorités n'étaient pas mises au même endroit dans la société ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que le féminisme est plus d'actu aujourd'hui qu'il ne l'était auparavant ? Et est-ce qu'il le sera encore plus dans les années à venir ?
C'est vaste. C'est très vaste. Je pense que de toute façon, il y a des stéréotypes et des clichés qui sont véhiculés sur une origine essentielle biologique de la domination masculine sur la domination féminine qui ont absolument pas lieu d'être, puisque même scientifiquement, on a prouvé, c'est bon, que la testostérone, ça rend pas plus agressif, ça rend pas plus dominant.
Il est plus fort.
Ouais. Non, mais c'est pas moi qui l'invente, c'est voilà. Il y a historiquement une association qui a été faite entre le féminin et la nature, par exemple, mais qui date de très longtemps, mais qui est pas immuable et pas forcément justifiée. Parce que voilà, on a associé le féminin à la maternité, à tout ça, donc on s'est dit, les femmes, c'est pour prendre soin, etc. Et c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le care, c'est le prendre soin. Mmh. Et on voit bien que les métiers du care, donc les métiers du soin, que ce soit les infirmières, que ce soit les personnes qui prennent soin dans les foyers en général, celles qui prennent soin de la famille
en EHPAD
qui prennent soin des enfants, etc. Et ben c'est des domaines qui sont surinvestis par les femmes, et pourquoi? Parce que justement c'est plutôt une assignation qu'une inclinaison naturelle.
Ouais. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est, je pense, vraiment le rapport qu'on a à l'histoire et à notre passé, et du coup la manière dont on raconte l'histoire, et pas de quelle histoire. En fait, on se pose pas tellement la question de quelle est l'histoire qu'on a vécue réellement, mais comment on raconte l'histoire et comment on vulgarise l'histoire et comment on dit que de tout temps c'est comme ça, les femmes sont à la maison et les hommes et sur les hommes repose du coup la viabilité, enfin la survie du foyer, etc. Enfin, c'est des mythes très 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 ancrés dans nos esprits, et en fait ces mythes, ils reposent sur la manière qu'on a de raconter l'histoire au final et de romantiser un petit peu une histoire naturelle. Et sur ça, il y a une ressource, enfin, je la reciterai peut-être à la fin du coup, mais une ressource hyper intéressante qui est du coup une thèse, et il y a eu une émission Arte aussi sur la question de Priscille Touraille, qui s'appelle « Homme grand, femme petite ». Et donc, c'est une historienne qui a fait une thèse sur, entre autres, l'histoire de l'alimentation et pourquoi du coup, et en fait, qui explique les raisons sociales de pourquoi les hommes sont plus grands que les femmes biologiquement. Et en fait, c'est quelque chose qui est devenu dans l'esprit de tout le monde. Dans l'esprit de tout le monde, les hommes sont plus grands. Enfin, en majorité, les hommes sont plus grands que les femmes, ont une musculature plus développée naturellement. Et du coup, elle vient remettre un petit peu en cause. Et en fait, elle vient poser des questions par rapport à ça. Et du coup, elle vient nuancer. Donc, elle dit pas que c'est purement social, mais elle dit qu'en gros, le social influence le biologique et le biologique influence le social, oui, et qu'il n'y a pas de biologique tout seul qui préexiste à l'humanité, vu qu'on est des êtres sociaux et qu'en fonction de nos décisions, etc., ça crée tout un tas de répercussions. Et en l'occurrence, le fait que, notamment, du coup, à une certaine époque où les rôles sociaux de l'homme et de la femme étaient très clairement définis, de l'homme travaille et la femme reste au foyer, les bouts de viande qu'on avait, c'était toujours pour les hommes, et de génération en génération, on voit des répercussions claires. Et il y a des exemples très intéressants et beaucoup plus à l'échelle de l'entendement humain, entre guillemets, qui sont, par exemple, elle parle de la traite négrière, enfin, à l'époque, et du coup, elle dit que, elle explique en gros tout le mécanisme selon lequel il y a une sélection naturelle, entre guillemets, enfin, ce qu'on qualifierait de sélection naturelle si on le regarde du point de vue biologique, qui s'est effectuée, mais de manière décidée et faite par les hommes. Parce qu'en gros, en fait, juste pour clore cette petite parenthèse, aux États-Unis, une grande majorité de la population afro-américaine souffre d'hypertension. Et du coup, c'est considéré comme un critère biologique des personnes afro-américaines. Sauf que c'est juste un résultat de la traite négrière, parce que les gens qui survivaient sur les bateaux négriers, bah, c'était les personnes qui avaient cette spécificité-là.
Ok. Je vous propose une petite pause musicale avant de reprendre, parce que c'est très intéressant et très dense. Ou pas, puisque ça n'a pas l'air de fonctionner. Attends.
She meets you bomb like Mogadishu. Fanatic of the pattern, stay intangible and weave with undeniable ease. Yeah. They say his literary style is neoclassical. He's back from his sabbatical, it rang through the trees.
Hey, yo, what's popping over there?
Yo, we're chilling over here.
All my people in the place,
forever in the air.
Our true brethren, spiritual monks. We in the groove session, shit is for dumb.
Hey, yo, what's happening over there?
Propose là, c'est qu'on rentre un peu plus dans nos interprétations propres du féminisme et comment nous on se sent en tant que femmes bah, aujourd'hui dans la société. Et puis, on est toutes les quatre en école d'ingénieur à l'UTC, du coup. Je vous laisse la parole sur ce sujet aussi très vaste.
Je peux commencer. Moi, aujourd'hui, je me sens bien dans ma vie de femme, on va dire. Dans le fait d'être une femme, ça n'a pas toujours été le cas du tout.
Ouais.
Si je peux expliquer un petit peu, c'était dur quand j'étais plus jeune, surtout. Et c'est que assez récemment que je revendique, depuis que je revendique le féminisme, que en vrai ça va plutôt mieux, même si tout n'est pas tout rose non plus, mais je veux dire il y a plein de questions qui sont quand même réglées.
T'as des exemples de questions?
La question de, une question qui me vient comme ça, c'est vraiment celle de mon rapport à ma sexualité, enfin ma vie sexuelle. Qui a été, moi je suis entrée dans la vie sexuelle, à peu près à l'âge du lycée, par un viol. Du coup, c'était mon premier rapport sexuel, quoi. Et du coup, forcément, bah, ça ancre, enfin, ça fait, j'en parle en rigolant maintenant, mais
ouais.
Ça ancre plein de.
Un rapport au corps compliqué.
Ouais, ça ancre plein de difficultés par la suite, et surtout, en fait, ça pose plein de questions. Donc moi, sans rentrer dans les détails de mon cheminement personnel, du coup, c'est quelque chose qui a été du coup une énorme épreuve du coup à traverser pour moi, qui a fait que je me suis posé énormément de questions, j'étais très mal pendant un moment, et du coup j'ai décidé, parce que j'ai été aidée, parce que j'ai pu en parler, etc., et parce que j'ai pu me réapproprier en fait vraiment ces questions. Et en gros, je pense que ce dont j'avais le plus peur, c'est hyper dur de poser le mot viol. Moi, pendant longtemps, j'étais dans le déni et je captais pas trop qu'il m'était arrivé un truc grave et illégal et tout. Et du coup, j'étais dans le déni pendant longtemps. Et en fait, c'est vraiment tout ce cheminement de poser le mot, accepter d'avoir été victime, accepter tout ça qui m'a permis après de me libérer complètement de tout ce qui m'emprisonnait à cette époque-là.
Et t'as mis combien de temps à t'en rendre compte ?
À me rendre compte que j'avais vécu un truc pas normal, entre guillemets, j'ai mis...
Pas entre guillemets, hein, c'est pas normal.
Non, oui, enfin, pas ouais. Normal dans le sens où pas normal, c'est trop faible pour ouais. Désigner ça, c'est pour ça que j'aurais été entre guillemets. Mais des années, enfin, je saurais pas dire combien, mais...
Parce que du coup, t'étais très jeune, t'étais au lycée...
J'étais en seconde.
En seconde.
Ouais. Et du coup, 3 ans, enfin... 2 ans et demi, peut-être, à poser le mot, enfin, à me dire, à ce moment-là, il y a eu un truc chelou. Et après, à plus me dire, OK, j'ai vécu ça, j'ai pas à avoir honte, j'ai le droit et tout, beaucoup plus de temps. Mais surtout, en fait, juste à accepter, parce que j'avais un espèce de truc, et vraiment, j'ai l'impression, moi, avec toutes... parce que toutes mes amies proches, pareil, n'ont pas forcément vécu le même fait que moi, mais des faits semblables, des agressions, etc. Donc toutes mes potes proches sans exception. Donc déjà, se rendre compte de ça, c'est quelque chose.
Et tu dis bien toutes mes potes proches, et c'est là qu'on se dit ouais. Que, bon, on peut pas généraliser en disant qu'il n'y a pas de violence faite aux hommes, mais que la majorité est quand même très largement écrasante. Je ne peux pas donner ouais. Le pourcentage parce que je ne les ai pas exactement, mais elle est largement écrasante pour les femmes qui se font ouais. Violer et violenter. Et donc, est-ce qu'il y a eu ce moment où tu as compris que c'est parce que tu étais une femme que tu avais subi ces violences ?
Ouais, et c'est plus passé par... j'ai compris... c'était vraiment ça, je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. Et en fait, j'ai compris ce que je représentais. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de me libérer. J'ai compris ce que je représentais dans la tête de cette personne-là, qui m'a infligé ça. Et à quoi je lui servais. Et ce que j'étais pour lui à quoi il m'utilisait, en fait. À quoi il m'avait utilisé à ce moment-là. Et c'est comme ça. Et en fait, c'est vraiment parti de là. Et du coup, je me suis dit que déjà, j'avais pas envie de revivre des situations similaires.
Ah bon?
Voilà. Et dans un premier temps, et en fait, ça m'a ouvert vraiment le champ. Du coup, je me suis dit, OK, parce que je suis une femme, je subis ça. Et du coup, qu'est-ce que je subis d'autre, en fait ? Je subis aussi ça. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là. Et c'était un peu vraiment... C'est un terme un peu pourri, mais c'était vraiment une révolution intérieure, au final, parce que je me suis rendu compte que toutes ma vie était constituée autour d'injonctions et que je m'appartenais pas du tout à moi-même, que j'étais une personne qui correspondait à ce que j'avais l'impression de percevoir, de ce que les gens attendaient de moi, mais j'étais pas du tout présente à moi-même et je faisais pas du tout les choses parce que je le voulais, parce que j'en avais envie, parce que c'était des envies propres. Je faisais les choses pour répondre à ce que je pensais qu'on attendait de moi, quoi.
En fait, tu as commencé par en vouloir à ton agresseur et au fur et à mesure de ton questionnement, tu as fini par en vouloir à la
terre entière. Non.
La société, enfin, en tout cas, toutes les injonctions.
Non, mais oui. En tout cas, il y a eu de la haine et après, c'était plus... voilà, des questions. Et c'était plus aussi, c'était vachement tourné vers moi, en fait. C'était plus de l'acceptation, c'était de dire... Et c'est dur, en fait, de se confronter des fois et de se dire « Ok, j'ai le droit... » Enfin, tu vois, rien que des trucs... Enfin, le mot « viol », il est hyper difficile à poser et il est très stigmatisant. Et moi, pendant longtemps, j'ai pas réussi à poser ce mot-là parce que j'avais peur d'être une victime de viol. Parce que j'avais peur que si je pose ce mot-là, bah, du coup, ça veut dire que... Je suis triste, je pourrais plus jamais, enfin je suis une personne traumatisée, je pourrais plus jamais être heureuse dans ma vie et tout, alors qu'au final aujourd'hui bah je sais que j'ai vécu ça et je suis strong et je enfin voilà, tu vois, c'est ça me définit pas, genre c'est un truc que j'ai vécu et je pense que c'est tellement stigmatisant que le premier réflexe, enfin c'était mon cas et voilà, enfin c'est ce que je remarque aussi autour de moi, c'est qu'on minimise énormément. Et c'est un peu, je pense que c'est un peu lié à l'instinct de survie aussi, tu vois, c'est se dire, bon, vas-y, ok, c'est aussi pour avancer qu'on fait ça. Mais on a tendance à minimiser et du coup à pas... Et c'est pour ça, en fait, que c'est passé sous silence bien souvent et que c'est pas... Et que c'est impuni aussi, quoi. C'est parce que c'est difficile.
Il y a beaucoup de mythes qui entourent ouais. le viol et ça constitue aussi ce qu'on appelle la culture du viol. Qui est omniprésente, que ça passe de la l'hypersexualisation dans toutes les pubs, dans toutes les affiches, tous les trucs, à la minimisation, la négation et la remise en cause de la parole aussi. Et puis comme tu dis, le mythe de la bonne victime qui est traumatisée et qui se définira toute sa vie par son statut de victime, etc. Alors que chacun le vit différemment et voilà, il n'y a pas de bonne victime en fait.
On progresse beaucoup sur cette libération des paroles. J'imagine, on entend tous parler dans les radios, dans les même en présentation de grands concours, ou je pense aux Oscars ou ce genre de choses. Mais à côté, c'est vrai qu'on régresse pas, mais en tout cas, on n'évolue pas sur d'autres sujets. Là, tu parlais d'hypersexualisation. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est un phénomène qui fait exploser un pan de... toutes ces injonctions sociales sur la beauté et le physique d'une femme.
Ouais. Bah, d'un côté, je pense que les réseaux sociaux, c'est aussi le vecteur de beaucoup d'émancipation et de mise en commun, etc., si. De réalité. Les injonctions, les canons de beauté, etc., ils ont évolué dans le temps, mais ils ont un peu toujours été là. Et c'est aussi les réseaux sociaux un outil pour se réapproprier ça, à se dire, tu me traites, tu me... Enfin, ce qu'on appelle le slut-shaming, etc. Genre, c'est... Ok, bah vas-y, dis-le, bah, c'est pas grave, ok, je suis ça, j'assume, je m'assume, c'est pas un problème que d'être moi, c'est aussi ça. Mais d'un autre côté, il y a ce pendant négatif aussi de « Ah mince, je dois ressembler à ça, et je dois faire ci, je dois faire ça, il faut que je sois parfaitement épilée, il faut que j'ai une taille fine, il faut que je va ça, mais non, en fait, il y a des milliards de femmes sur Terre et tout le monde, chacune est différente et tout ça, c'est des dictates et c'est des construits sociaux qui n'ont pas forcément lieu d'être.
Et qui sont entretenus par les femmes elles-mêmes. Est-ce que des fois, on se marche pas un peu dessus ?
Bon, bah, je dirais que si, hein.
Ouais, c'est ça. Ouais, ça. On s'automutile un peu dans notre propre combat.
C'est un long parcours aussi de désapprendre à faire la compétition. Quand on regarde dès l'enfance, les garçons, ils grandissent dans la bande de garçons, la solidarité, la fraternité, le sport collectif, etc. Les filles, c'est plutôt ok, on va faire plus de choses individuelles et puis finalement on va plus être en compétition qu'en équipe et on va plutôt se critiquer et on va plutôt voilà, alors que c'est pas une fatalité et que bah voilà, si on ça commence, mais on va désapprendre à à part ça et à trouver un peu plus de solidarité, etc., de se souvenir plus, mais ça passe aussi par la parole, ça.
Tiens, t'as vu, t'as dit fraternité, j'en ai pensé dans notre... On dit liberté, égalité, fraternité, mais c'est hyper masculin, en fait, parce que le mot...
Frater,
c'est sororité, frères. Quand on parle pour un ensemble, un collectif de femmes. Sinon, ouais. C'est solidarité, quand on parle et du après, masculin et du féminin.
On pourrait parler d'adelphité, ce serait neutre pour tout le monde. Okay. Adelphité, ouais, on dit... Pour
solidarité, ça marche pas. Joli mot.
Si, si, ça marche, la solidarité aussi, bien sûr.
Allez. mais changeons la devise française.
Ouais. Liberté.
Go, oups, on part un peu loin.
Non, mais voilà, il y a beaucoup d'injonctions. Et je pense que c'est par les injonctions aussi qu'on se rend compte que. Enfin, je pense en tout cas pour avoir discuté avec d'autres personnes, il y a un moment où tu te rends compte que tu es une femme. Genre avant, tu n'avais pas vraiment la mesure de ce que ça voulait dire dans ton quotidien. Mm. Moi, quand j'ai été faire mes études à Brest pendant 2 ans, il n'y avait pas un jour. Mais vraiment pas un jour, et au moins une fois par jour, où il y avait un mec dans la rue qui allait me dire, qui allait me commenter mon apparence, ou qui allait me poser des questions indiscrètes, ou voilà, mais pas un jour. Et ça, c'est une problématique aussi qui est plus liée aux villes, etc. Mais c'est quelque chose de. Moi, c'était en tout cas à ce moment-là, je pense que j'ai compris qu'il y avait un enjeu et que je représentais quelque chose dans la société, quoi.
Quand tu disais, enfin, tout à l'heure, tu parlais du coup de un peu en fait, cette ambivalence dans les réseaux sociaux, de à la fois c'est un outil d'émancipation, à la fois ça alimente beaucoup cette logique de concurrence un peu et de critique, ça alimente beaucoup les complexes, etc., par rapport au fait qu'on voit toujours des corps parfaits, etc. Et je pense que.
Enfin, ça existe aussi pour les hommes. Hein.
Ouais, complètement. Mais quand tu dis, est-ce qu'on se tire pas dans les pattes, à la fois oui, à la fois je pense que il faut, enfin, on doit pas le, enfin, c'est peut-être pas un bon angle de le voir comme ça en se disant que bah voilà, même si il y a plein de femmes qui ont besoin de répondre à ces critères-là, elles sont pas. Pour autant, elles sont pas anti-féministes en fait parce qu'elles le font. C'est que
non,
bien sûr. Mais je veux dire,
t'as raison, faut carrément souligner.
C'est que à la fois, oui, même si peut-être dans l'absolu, si on regarde de haut comme ça, ça peut desservir entre guillemets la cause. Mais au final, je pense qu'il faut se focaliser sur ce qui nous rassemble en fait au final et de se dire tous les combats et toutes les paroles sont bonnes à prendre. Et bien sûr, même si, même s'il y a ce truc des réseaux sociaux, se dire essayer de avec soi-même être pas, enfin de sortir de cette logique de comparaison, même si c'est hyper difficile, de dire ok, il y a ça qui existe, mais qu'est-ce que moi je peux envoyer comme vibe pour que ce soit plus de la sororité que de la concurrence.
Bon, mais si tu regardes la majorité, on peut pas dire que tu puisses vraiment faire cette déconstruction, enfin t'es pas forcément aidé. Moi là j'ai pas TikTok, mais je connais un peu les enjeux que représente cette application et surtout la population qui, enfin la moyenne d'âge dans j'ai envie de dire des enfants, hein, des jeunes filles qui sont sur cette application, et j'ai peur quand je vois le contenu majoritaire.
Alors, si je peux intervenir, j'ai eu TikTok pendant une petite période.
Vas-y, raconte-nous.
Et au contraire,
super marrant.
Au contraire, j'ai eu l'impression que TikTok, c'était, destiné à une population très jeune, mais il y avait vraiment de tout. Et quand je dis de tout, c'est très vite dans ton contenu, tu as des personnes de tous les genres, toutes les sexualités qui débarquent dans ton feed et qui, justement, je voyais des gens qui s'assumaient à fond. C'est, ça passe beaucoup de ça.
Mais je pense que c'est parce que tu as l'âge d'avoir ce recul-là et que du coup, le contenu que tu avais commencé à sélectionner...
Je suis même pas sûre. Honnêtement, TikTok m'a pas du tout cerné pour le coup. l'algorithme d'intelligence artificielle m'a pas du tout cerné. Et c'est arrivé... Vraiment, c'était la majorité du contenu qui était proposé, sans que je fasse moi-même de sélection, je mettais aucun like, je mettais rien du tout. Rien qu'en défilant, vraiment, tu voyais tout. Après, je dis de tout, il y avait vraiment de tout. Il y avait des couples de 5 personnes qui étaient là, ouais, on s'assume et tout. Ça, bon, ok, les gars, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Mais chacun balance sa vie comme ça. Parce qu'en fait, tout le monde répond à un challenge qui est voilà le challenge de base, mais chacun le met à sa sauce avec son contenu et ils sont très, très vite détournés. Et justement, j'ai été assez surprise par, euh, par ce contenu de TikTok. C'est pas du tout comme ce qu'on voit par exemple sur les Reels d'Instagram. Je sais pas, enfin, en fait, le contenu même est peut-être sur Instagram où ils m'ont plus cerné. Et moi qui n'étais pas intéressée par, spécialement par voilà, toutes ces questions de genre, etc., j'ai pas du tout ça dans mon feed Instagram. Et là, c'est beaucoup plus ce que tu as en tête, je pense, où tu vois que des filles hyper sexualisées qui font des danses très. Enfin, bref. Vous voyez.
Sexualisées, tu peux le dire. Mais en fait, je pense qu'on peut pas nier le fait que. D'un point de vue marketing, ça vend. On a objectifié le corps de la femme et ça vend. On ne va pas se mentir. Oui. Enfin, on le voit dans toutes les pubs. On a déjà abordé le sujet. Et je pense que du coup, sur TikTok, Instagram et enfin, les réseaux sociaux, de toute manière, quand tu es jeune, tu tends à voir ce qui est le plus commercial, en fait. Oui. Et c'est ça.
C'est je pense que du coup, comme disait Violette un peu, c'est que maintenant, il n'y a pas que ça. Et ça, c'est vraiment une porte de sortie qui est super salvatrice, je pense. Mais c'est sûr que ça reste hyper normé, même si les normes changent, les injonctions changent, mais il y en a toujours, quoi.
Et moi, c'est sûr que je partage complètement ton inquiétude et un peu, même ça me fait paniquer des fois quand je m'en rends compte de ça, des jeunes générations plutôt, ou peut-être des jeunes filles qui n'ont pas encore eu le temps et qui n'ont pas encore... la maturité de se poser ces questions-là qui cherchent du coup, ça amplifie les mécanismes qui sont déjà présents c'est dans ça. La vie quoi, de base, et c'est sûr que ça fait peur, mais voilà, c'est là, et
c'est là aussi on pourrait dire que là où du coup quand t'es très jeune t'as pas forcément le discernement, etc., c'est là où peut-être qu'à l'école on pourrait faire un peu plus d'éducation, un peu plus de sensibilisation, etc., pour justement se connaître soi-même, connaître un peu mieux les autres et avoir un peu plus de recul sur ce qu'on voit en dehors, quoi.
Et du coup, j'ai carrément envie d'amener cette question. Quelles sont les actions qui sont faites dans ce mouvement, si je peux appeler ça comme ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui est fait ?
Je pense que déjà, dans les écoles et tout, il devrait y avoir plus d'éducation sexuelle, au consentement notamment, parce que le consentement c'est vraiment la base de tout.
Il y en a déjà et plus.
Pas que dans la sexualité, mais dans toute la vie, il faut implémenter ce concept de consentement.
Les filles, venez en école d'ingénieur. On est bien.
Ouais. Et puis, il faut discuter, il faut en parler, être bienveillant sur ces sujets-là, etc. Il y a beaucoup de collectifs qui font de la prévention dans les écoles, etc.
Et rendre, de toute façon, c'est une prise de conscience et c'est des combats à l'échelle de toute une société et des individus aussi, quoi. Et rendre les gens qui enseignent moins sexistes aussi, quoi, ça en fait partie. Parce que voilà, des institutrices, parce que du coup, on a tous été en maternelle et on a tous eu la plupart du temps plutôt une maîtresse que voilà. Enfin, les institutrices, etc. Le sexisme, c'est beaucoup véhiculé par les femmes aussi. Et notamment, quand je parle des institutrices, je pense à des paroles comme un petit garçon de maternelle, s'il est super turbulent, qui court partout, qui gueule et qui tape sur tout ce qu'il y a, c'est pas très grave. Enfin, voilà, on va le calmer un petit peu, mais sans le blâmer pour avoir ce comportement. Alors qu'une petite fille, si elle fait ça, tout de suite, elle va être considérée déjà, ça va être déstabilisé, ça va être considéré comme super bizarre. Et puis, on va dire des phrases comme. Un petit garçon, t'es fort quand il a réussi à faire quelque chose, et les petites filles, on va plus mettre l'accent sur leur apparence. Ah, t'es jolie aujourd'hui, ou faut que tu saches sage comme une image. Elle est affreuse, hyper glauque, cette phrase, c'est ignoble.
Sage comme une image.
Sage
comme une image. Mais
ne bouge pas.
Comme une image. Ouais.
C'est beaucoup à internaliser et transmis dès l'enfance, quoi.
Donc l'idée, c'est d'ouvrir les esprits, et puis je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Et donc j'ai envie de vous demander, des petits podcasts, des petites recommandations que vous pouvez avoir, justement pour essayer d'être, que tout le monde soit d'accord, que tout le monde soit renseigné pour pouvoir se faire son propre avis et commencer à se dire, on va tous tendre à avoir une cohérence et à être content de la société qu'on construit.
Moi je pense deux livres là auxquels je pense, du coup Bad Feminist de Roxane Gay, ouais. Donc c'est un essai sur décomplexant sur le féminisme, sur dire que en fait En gros, la phrase qui résume un peu, c'est « je préfère être une mauvaise féministe que pas féministe du tout ». Et donc, c'est dire, bah voilà, on peut... En fait, il n'y a pas de bonne féministe. Genre, on a le droit de s'épiler, regarder la réalité, écouter du rap et être féministe. Et voilà, ça amoindrit pas pour autant la force du combat qu'on porte. Ouais. Et King Kong Theory de Virginie Despentes, ouvrage de référence sur la question.
Ouais. Ça débloque pas mal de barrières, ce bouquin-là.
Et après, il y a tout un tas de BD. Les BD, c'est des supports assez chouettes. Il y a Crocodile sur le harcèlement de rue, plus. Il y en a plein d'autres accessibles par Ovidie aussi. Il y a Baiser après MeToo, des choses comme ça. Assez cool. Et pour les podcasts,
Il y a pas mal de podcasts qui peuvent être intéressants. Je pense notamment à Les couilles sur la table, La poudre...
Un podcast à soi,
Kif Taras aussi, qui est super bien pour eux. Ouais, c'est important de s'ouvrir aux questions de racisme, etc. Et il y a aussi un podcast que j'aime bien et qui est fait par un homme qui s'appelle Mansplaining et qui est assez intéressant et assez accessible.
Un homme allié du féminisme. Mais merci les filles d'avoir été là. Merci Violette.
Merci à vous.
C'était très chouette d'avoir cette discussion avec vous. Vous pourrez retrouver ce podcast prochainement sur la page Facebook ou Instagram. On vous le fera savoir, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. À bientôt!